Bonsoir. La rentrée scolaire, c'est dans 13 jours, mais vous êtes déjà un certain nombre à avoir commencé les achats de fournitures, voire de vêtements. Et vous l'avez peut-être constaté, les prix ont sensiblement augmenté dans certains secteurs, moins dans d'autres. Mais cela reste tout de même une période délicate pour le portefeuille des familles, juste après les vacances. Période délicate également, si je puis dire, pour les étudiants, avec un coût de la vie étudiante qui devrait augmenter d'un peu plus de 2% cette année. Augmentation moyenne, puisque dans certaines villes, comme Grenoble, l'augmentation sera de 4%. Alors qu'il s'agisse de l'école primaire, du lycée ou de la fac, comment faire face à ces augmentations? Sont-elles justifiées? Et peut-on arriver à faire une rentrée low cost? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Et pour répondre à vos questions, nous ont rejoint dans le studio du téléphone sonne Aminata Koné. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale de la Confédération syndicale des familles. Lila Lebas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'UNEF. Et Samuel Sioui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Et à mes côtés, pour vous interroger, Sonia Bourhan, la spécialiste éducation de France Inter. Pour poser vos questions, je vous le rappelle, il y a le site internet franceinter.com, les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson et notre standard, le célébrissime 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors, avant d'aller au standard du téléphone sonne, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table parce que, Aminata Koné, moi j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver dans les chiffres. Ça fait 3 jours que je regarde attentivement les chiffres de la rentrée scolaire, notamment dans le primaire, notamment dans le secondaire. Et j'arrive à avoir des chiffres complètement différents. Alors certaines organisations nous disent « ça augmente pas beaucoup », certaines organisations nous disent « ça augmente pas du tout ». Alors, les vrais chiffres, ça augmente ou pas? Si je suis parent d'élèves, d'enfants du primaire ou du secondaire en ce moment?
Eh bien, nous avons une référence sur 44 années de travail. Donc, nous avons une régularité de la manière de travailler, des enquêtes, mais aussi des habitudes de consommation des familles. Et donc, pour nous, cette année, on peut dire que les cours élémentaires CP et CM ont baissé. Effectivement, jusqu'en quatrième, nous constatons une petite baisse du coût de la scolarité au moment des achats de rentrée. Ceci dit, nous constatons aussi une augmentation peut-être un peu plus importante cette année pour la seconde. Normalement, la seconde et les premières techniques, ce sont des filières qui coûtent assez cher. Voilà.
Samuel Sioui, vous êtes parent d'élèves avant tout, avant d'être le porte-parole de la PEP. Quand vous passez à la caisse, ça fait mal en ce moment. Hein.
Oui, ça fait mal, mais je dirais on a l'habitude. C'est toujours un peu le cas. Donc, c'est vrai, ça a plus ou moins augmenté. Ça a augmenté comme un peu tout. En revanche, ce qui se passe, c'est que parfois, on voit des listes qui sont un peu délirantes. D'ailleurs, on n'a pas encore les listes pour beaucoup d'entre nous, puisque chaque professeur va donner sa liste et on va, comme à chaque fois, avoir besoin de cahiers de 180 pages, de 24-32 et certains de notre taille. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être faites pour faire en sorte que cette rentrée des classes soit moins chère pour les familles, en harmonisant un peu ce qui est demandé par les professeurs en général.
Justement, on y reviendra tout à l'heure. Lila Lebas, alors vous, alors là c'est la douche froide hein, pour les étudiants. On s'y attendait un petit peu à cette augmentation, mais 2% en moyenne et 4% par exemple à Grenoble, c'est beaucoup.
Tout à fait. Pour nous, c'est beaucoup. C'est 2,09%. C'est le triple de l'inflation générale. Donc ça veut dire que les étudiants vont être encore plus précaires pour cette rentrée universitaire, avec les deux principaux postes de dépenses qui augmentent. C'est les loyers, qui représentent environ 53% du budget d'un étudiant. Et donc, dès que ça augmente, eh ben forcément, ça pèse lourd dans le portefeuille. Et les transports en commun qui connaissent aussi beaucoup de hausses localement et donc qui, tout simplement, rendent plus compliqué l'abonnement dans les transports en commun, le fait de pouvoir se déplacer de son lieu d'études à son lieu de vie et donc, tout simplement, des conditions d'études qui risquent de se dégrader.
Ça va devenir un luxe d'être étudiant en France ?
Bah, ça l'est déjà un petit peu quand déjà un étudiant sur deux est salarié à côté de ses études pour pouvoir les financer, alors même que c'est la première cause d'échec à l'université. On le voit bien, c'est de plus en plus compliqué de trouver des sources de financement puisque le système d'aide sociale, il est à bout de souffle, il exclut 70% des étudiants et même le montant est largement insuffisant. Quand c'est 555 euros par mois maximum, on se rend bien compte assez vite que c'est pas suffisant pour vivre. Les aides des familles, bah, c'est de plus en plus compliqué. On le sait, et donc il reste le salariat étudiant, mais ça prend du temps. Quand on passe 20 heures à bosser en dehors de ses études, bah, c'est 20 heures qu'on passe en moins à réviser, à aller en cours, et du coup c'est l'échec universitaire à la clé.
France Inter, Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Allez, direction le standard du téléphone sonne, nous allons à Marvejols où nous attend Nathalie. Nathalie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci. Alors en fait, je suis libraire papetière, vous l'avez dit, à Marvejols. J'ai eu cet après-midi une maman d'élève qui rentre en sixième et on a calculé, entre autres choses, elle avait besoin de 9 cahiers 24-32 de 96 pages. Je trouve ça incroyable que pour un élève, on demande 9 cahiers. Et est-ce que les profs peuvent pas se coordonner? Et je voudrais bien voir à la fin de l'année si l'élève a utilisé les 9 cahiers dans l'année.
Alors ça, c'est le cœur du problème. On en parlait à l'instant avec Samuel Siwi de la Fédération des parlants d'élèves de l'enseignement public. Sonia Bourane, c'est un des grands classiques, ça. Les cahiers 24-32, les pastels sèches qu'on n'utilise jamais. Comment ça se passe, vous qui côtoyez les enseignants au quotidien, comment ça se passe ces créations de listes? C'est le petit moment de caprice de l'enseignant?
Non, on peut pas dire ça, mais simplement les enseignants ont l'habitude de faire leur demande de matériel spécifique, et c'est vrai que ça ne correspond pas forcément d'un professeur à l'autre. Donc, il faut se souvenir qu'il y a quelques années, le ministère avait essayé de clarifier un peu les choses. C'était à l'époque du ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos. Il avait mis en place une liste des essentiels de la rentrée. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les enseignes s'étaient engagées à assurer des prix assez bas, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, le ministère a bien tenté quelque chose, mais pour l'instant, rien ne marche.
Alors, chez les parents d'élèves, vous les côtoyez, vous les enseignants, il n'y a pas moyen d'organiser un peu plus les choses?
Il y a des collèges où ça marche. Il y a des collèges où on arrive à se concerter et à mettre en place une liste dès la fin de l'année précédente et à faire des commandes groupées. Et puis il y en a d'autres où c'est exactement ce que dit la dame, 9 cahiers en
Nathalie
début d'année.
Marvejols.
Et là, on parle de la rentrée. On ne parle pas ensuite des réassorts où il faut racheter un autre cahier de 180 pages alors qu'il ne reste que 2 mois d'école, par exemple. Et c'est chaque année la même chose, donc c'est très difficile. Donc je dirais que ça s'est amélioré quand même au fil des années. Il y a de plus en plus d'écoles où on a une vraie structure des achats, mais dans la grande majorité, c'est encore compliqué.
Aminata Kone, vous y prenez comment pour faire votre estimation du coût de la rentrée scolaire?
Eh bien, nous menons des enquêtes, nous avons deux niveaux d'intervention. Les enquêtes qui sont menées et par les familles, c'est-à-dire que les familles nous remontent les listes scolaires avec les achats qu'ils font. Donc, il y a une partie qui va être consacrée sur le moment de la rentrée, et puis l'autre partie de l'enquête va nous remonter tout ce qu'ils ont dépensé au fur et à mesure de l'année. Donc, c'est pour ça que nous avons à la fois le coût de la rentrée scolaire, mais nous avons aussi le coût de la scolarité pendant toute l'année.
C'est-à-dire les vêtements, les assurances?
Tout, plus les achats en cours d'année. De cahiers, de matériel, de petit matériel qui casse, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est un coût global que les familles nous remontent. Et cela dure depuis 44 ans. Donc, on a des références. Cette année, on a 6380 références qui nous ont été remontées. Nous avons des listes également. Et il y a des listes qui sont complètement aberrantes. Je partage tout à fait ce qui a été dit. 46, nous avons eu des 46 fournitures demandées. Alors je me demande pourquoi faire. à la fois les parents, il y a du gaspillage, puisqu'il y a des colles qui sèchent, des choses comme ça, mais aussi il y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec les familles, tout ce qui peut être réutilisé est réutilisé pour l'année d'après.
Alors justement, j'allais vous poser la question, on allait en parler durant cette émission, mais il y a cette question qui revient, est-ce qu'on peut faire une rentrée scolaire low cost ? Et quel conseil pour que ça coûte le moins cher possible ? Une association de consommateurs disait garder tout d'une année sur l'autre. Mais est-ce que c'est bien raisonnable?
C'est pas raisonnable. On peut pas tout garder. Il y a d'abord l'exigence des enseignants qui vont vouloir du matériel de tel et tel type. Je pense que c'est pas raisonnable, même pour les familles, de permettre à l'enfant d'être marginalisé en classe. Donc il y a aussi cet aspect. Et les familles sont très, pour eux, l'enseignement, l'éducation est un investissement, donc ils font le maximum d'efforts pour que l'enfant se sente bien au moment de la rentrée scolaire. Il y a des fournitures qui peuvent être utilisées, il n'y a pas de souci, mais d'autres, c'est quasiment impossible, donc c'est du gaspillage.
Grosso modo, pour un ménage qui a un enfant qui rentre en primaire et qui rentre en sixième, c'est un chèque de combien au début de l'année ?
Un enfant qui rentre en primaire, ça va être, par exemple, au CP, ça va être 149 euros, à peu près ce que nous avons relevé. En CM, il va avoir moins de 200 euros. Donc c'est intéressant, ça veut dire que les parents pourront utiliser le surplus de l'allocation de rentrée scolaire pour les inscriptions dans les activités, puisque ça aussi, il faut le prévoir. Après, quand on arrive en sixième, quatrième, l'allocation de rentrée scolaire va être juste pour couvrir les besoins. Mais à partir de la seconde, bah oui, c'est une ardoise pour les familles parce que il y a au moins un écart de 100 à 300 euros pour les familles.
Et ça, Sonia, on l'explique comment, c'est cet écart, c'est les besoins supplémentaires?
Voilà, alors le coût en lycée, effectivement, la plupart des organisations le soulignent, le coût en lycée est plus important, notamment en lycée professionnel, où là, on demande aux élèves du matériel qui coûte cher. Alors, certaines régions participent, prennent en charge, d'autres non, donc il y a beaucoup d'inégalités. Et puis, il faut souligner aussi que les élèves de lycée professionnel, parfois, aussi viennent de milieux plus modestes, donc c'est plus difficile pour ces élèves-là, pour qui le coût est très cher.
Alors, pour qu'on puisse comparer Lila Lebas, là, on était jusqu'à la seconde, jusqu'à la terminale. Dès qu'on passe le cap du dessus, là, c'est au minimum un chèque de combien en début d'année ?
Bon, en début d'année, si on doit avoir un logement autonome, ça veut dire qu'il faut payer la garantie, il faut payer le premier loyer, faut payer l'abonnement au transport. Une rentrée universitaire, ça coûte très cher. C'est le mois de septembre où il y a toutes les dépenses. Il y a les frais obligatoires également, les frais d'inscription. Quand on n'est pas boursier, on les paye. C'est 180 euros en licence. Il y a les frais de la sécurité sociale. Et donc, c'est un gros chèque à faire, évidemment, à la rentrée universitaire. Mais en plus, quand on est étudiant, bah, ça dure pendant tous les mois de l'année. Puisque quand il y a le loyer à payer, il faut forcément le faire à la fin du mois, sinon on ne peut pas étudier dans de bonnes conditions. Et donc nous, ce qu'on calcule, c'est vraiment l'augmentation du coût de la vie sur l'ensemble de l'année universitaire, tout en sachant que ça touche particulièrement les étudiants à la rentrée, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a les plus gros frais.
Alors, une question au standard qui vous concerne, on va donc aller à Los Angeles retrouver Soizic. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci. Moi, je suggérerais que l'on crée des parrainages. Puisque moi, par exemple, je gagne correctement ma vie puisque je suis médecin et je n'ai qu'un seul enfant qui fait des études actuellement. Et j'ai toujours pensé que j'aimerais parrainer un étudiant qui est obligé de travailler pour payer ses études, pour justement lui éviter de devoir travailler et pouvoir mieux se consacrer à ses études. Et ça serait, ça serait déductible ou pas des impôts, ça serait anonyme ou pas, ça serait, il y a toutes sortes de modalités à mettre en, ça serait un petit peu au mérite quand même, en espérant que ça serait des étudiants sur lequel on, duquel on peut espérer, à partir du moment où il travaille pour payer ses études, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, je suis dans une région où il y a de grosses disparités de fortune. Il y a énormément de gens riches et énormément de gens pauvres. Et je pense que je ne suis certainement pas la seule qui accepterait de faire ce genre de parrainage.
Alors, Lila Lebas, présidente de l'UNEF, vous en pensez quoi de cette idée de Soizic de Los Angeles de parrainage ?
Moi, je pense surtout que la solution elle doit être au niveau des aides sociales qui sont données aux étudiants et que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas seulement à des personnes de faire de parrainer un étudiant ou un autre, puisque sinon, ça fait encore des inégalités entre les étudiants. Je pense que la solution elle doit être au niveau du gouvernement qui doit mettre en place un système d'aide sociale qui répond véritablement aux besoins des étudiants. Et pour ça, il faut changer le mode de calcul, puisque aujourd'hui, quand on prend uniquement la feuille d'impôt des parents pour savoir si on a le droit d'être boursier ou non, eh ben ça correspond pas aux besoins des étudiants au quotidien. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs, et ça le principal problème aujourd'hui. Et donc je pense que c'est pas au cas par cas, c'est l'ensemble des jeunes qui doivent être aidés.
Retour au standard, nous allons à Gand, dans le sud-ouest de la France, retrouver François. François, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Bienvenue au téléphone sonne.
Bien, ben, comme d'habitude, et merci à vos invités, merci à tous les auditrices et auditeurs. Moi, je voudrais revenir à une chose basique. Jules Ferry a obtenu l'instruction gratuite pour tous, et c'est un minimum vital. Et moi, je m'aperçois, en vous écoutant, j'en suis encore plus en plus convaincu, qu'il y a une instruction à plusieurs vitesses. Il y a les très pauvres et les pauvres, et il y a ceux qui peuvent s'en sortir et qui n'ont pas besoin des aides du gouvernement. Alors moi, je pose la question à vos invités, comment on pourrait revenir à une véritable instruction qui tient la route, qui fait des résultats, qui fait des prix Nobel, et qui soit concurrentielle, et dont qui s'en vont pas aux États-Unis quand ils ont réussi en France ou ailleurs. Et voilà.
Alors on va essayer de vous répondre. Il y a d'ailleurs aussi une autre question de Jérôme sur le site franceinter.fr. Alors là, qui est très pratico-pratique, mais qui va dans le même sens. Pourquoi les écoles ne s'équipent-elles pas de systèmes d'ordinateurs? Ça éviterait de devoir acheter des dizaines de cahiers, de stylos, de crayons. Samuel Sioui.
Alors déjà, il y a de grandes disparités territoriales. Disons qu'il y a des écoles primaires, par exemple à Péry, qui fournissent la totalité des fournitures. Ou presque, enfin en dehors des stylos, mais qui fournissent tous les cahiers, etc. Et il y a d'autres municipalités qui pourtant donnent un budget aux écoles pour s'occuper des fournitures, mais malheureusement, on demande beaucoup plus. Donc déjà, il y a des grosses disparités, il y a des budgets qui sont alloués, on pourrait peut-être essayer de faire rentrer les besoins de fournitures, en tout cas dans les petites classes, dans les budgets qui sont donnés par les municipalités, par exemple.
Amina Tagone, ce serait une bonne idée, ça, d'avoir, par exemple, des tablettes, mais c'est une vieille idée dans les écoles, et comme ça, on n'a plus besoin de cahiers, de crayons, de stylos, que sais-je encore.
Oui, les parents, c'est sûr que pour les jeunes, ça va être une grande révolution, puisque les jeunes sont très... instinctivement, ils adorent tout ce qui est tactile, donc on apprend en s'amusant, donc c'est quelque chose qui peut les intéresser. Mais je pense qu'aussi qu'il est important d'avoir quelques manuels aussi pour pouvoir travailler, parce que je vois l'insécurité de certaines familles, ce que les familles disent, pas le tout informatique. Et je pense aussi qu'il faut penser à l'état de santé des jeunes, parce que des heures sur une tablette, je pense que ça a quand même des conséquences sur la santé des enfants.
Sonia Bourin, c'est un vieux projet, ça. On l'a même vu à l'étranger, des grandes marques, notamment Apple, dire ben nous on va équiper les petits Américains avec des tablettes. Puis finalement, même aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné.
Oui, et puis même en France, on est déjà bien avancé sur le plan numérique, etc. Mais on ne pourra pas remplacer malgré tout, il y en aura toujours besoin d'un crayon et d'un cahier. C'est vrai qu'on fait quand même quelques progrès. Hein. Il y a quand même des collèges qui s'équipent pour justement, par exemple, par rapport au problème des manuels scolaires qui sont très lourds aussi en plus, qui abîment le dos des enfants. Et on voit que de plus en plus d'établissements quand même s'équipent, mais ça ne remplacera pas le stylo.
Alors oui,
sachant qu'il y a un test dans le Grand Est, justement, une cinquantaine de lycées qui passent au manuel numérique, mais ça demande aussi de gros investissements de la part des familles, puisqu'il faut les établissements ne fournissent pas tout le matériel informatique, bien évidemment.
Alors, il y a une question de Lionel sur Twitter. Si les parents ne succombaient pas aux caprices de leurs enfants qui réclament des objets dernière mode, la facture serait moindre. Alors, vous, le parent d'élève, vous succombez à la tentation quand vous êtes dans les rayon de la grande surface?
En dehors du sac d'école, je dirais non. Et le sac d'école, il le garde en général plusieurs années, donc voilà.
Et en général, je pense que les parents restent quand même décideurs des fournitures, on n'achète pas n'importe quoi. Simplement, de temps en temps, il faut aussi faire plaisir à l'enfant sur une trousse ou un cartable, de lui permettre de choisir.
Sonia Bourane.
Oui, ce qu'on peut donner comme conseil souvent aux parents, c'est de faire choisir à l'enfant le cartable ou la trousse qui lui font plaisir. Et puis, après, pour le reste, le parent se débrouille et va tout seul dans le magasin.
C'est de la négo, alors.
Exactement.
Allez, on retourne au standard, direction Nantes, où nous attend Yves. Yves, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Voilà, c'est un simple témoignage. J'ai été professeur de mathématiques pendant 40 ans. Maintenant, je suis à la retraite depuis 2 ans. Je n'ai jamais demandé de liste de quoi que ce soit à mes élèves. Ni papier, ni crayon, ni livre, ni quoi que ce soit.
Et vous faisiez comment alors ?
Je faisais avec ce que les élèves avaient comme matériel. Ils se débrouillaient avec leur matériel qu'ils avaient. Et mes cours étaient imprimés, tapés par mes soins sur un ordinateur et après photocopiés. Et donc, voilà, ça marchait très très bien. Donc je suis absolument horrifié quand j'entends des profs dire qu'il leur faut 3 cahiers, 4 cahiers, je comprends pas.
Sonia, Yves de Nantes, c'est un cas d'école, il faudrait le mettre sous cloche, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des profs comme ça.
Oui, mais quand même, il y a quand même des professeurs qui font preuve de bon sens et qui sont raisonnables dans leur liste.
Et est-ce qu'il y a des possibilités, Samuel Sioui, de négocier entre vous représentants dans les établissements scolaires et les enseignants pour dire, attendez, là vous exagérez peut-être un peu, on va peut-être voir ça différemment. Est-ce qu'il y a un dialogue possible sur ce dossier-là qui est quand même crucial au début de l'année, les rentrées scolaires?
Comme je vous le dis, il y a certains établissements où on a réussi à construire des listes où on peut faire un travail d'achat groupé pour l'ensemble des professeurs, ou presque. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Après, il y a certains professeurs, mais c'est comme pour tout, il y en a certains qui sont attachés à une telle demande, et puis c'est comme ça, quoi.
Lila Lebas, moi je voudrais qu'on essaie de croiser un peu les regards. Les étudiants, fatalement, avec moins de moyens, doivent se débrouiller pour faire cette fameuse rentrée low-cost dont je parlais tout à l'heure. Il y a des combines pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible, ou en tout cas de limiter les dégâts.
Il y a une combine, mais où il y a très peu de place, c'est évidemment se servir des logements en CROUS. Donc, c'est le logement à tarifs sociaux, mais seulement 7% des étudiants ont une place dans ces résidences universitaires. Et donc, évidemment que nous, on demande qu'il y ait plus de construction dans les logements du CROUS pour pouvoir permettre de loger plus d'étudiants dans ces résidences universitaires qui sont souvent à proximité des lieux d'études et qui sont, encore une fois, à des tarifs très faibles. Mais sinon, des astuces, il n'y en a pas beaucoup. Quand on doit payer ses transports, on ne peut pas aller négocier au guichet pour avoir un tarif moins cher, et pourtant c'est une obligation pour pouvoir aller sur son lieu d'études. Et donc après, évidemment, les astuces, c'est maintenant au gouvernement de les donner aux étudiants et de mettre en place des réformes d'urgence pour qu'ils aient les moyens de pouvoir financer cette rentrée et d'étudier dans les meilleures conditions possibles.
Allez, nous allons au standard et direction d'Yves-sur-Mer, où nous attend Alexis. Alexis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, c'est à vous.
Merci. Alors voilà, je voudrais poser la question. À quoi ça sert d'avoir une prime de rentrée scolaire, des bourses, tout ça, et finalement, les gens n'y arrivent pas plus que ceux qu'on n'ont pas, quoi. Alors, moi, j'ai une petite idée, quoi. Ça serait que l'État prend en charge de la maternelle jusqu'à la faculté, c'est-à-dire, l'école, c'est gratuit et obligatoire, comme on dit, mais les fournitures scolaires, les cantines et les transports, ça devrait être gratuit aussi. Et quand j'ai les fournitures, ça devrait être pour tout le monde pareil, exactement les mêmes. Que ce soit des crayons, les ordinateurs, les cahiers, les livres, tout le monde à l'école devra avoir les fournitures scolaires fournies. Et ça restera à l'école, les gamins prendraient ce qu'ils ont besoin pour faire les lois, ils les ramèneraient. Comme ça, il n'y aura pas d'injustice, tout le monde serait logé à la même enseigne, quoi, voilà. Et les gens qui ont la prime de rentrée scolaire, ils achèteront des vêtements, des coiffeurs, comme on dit, hein, et ça éviterait peut-être que les gamins soient pris en otage des parents. Avec la prime de rentrée scolaire, bien souvent, ils font autre chose que d'habiller les gamins, de leur donner des fournitures scolaires, ils achètent des machines à laver, des télés, des trucs comme ça, Et ça, c'est inadmissible. C'est dégueulasse et inadmissible.
On va vous répondre à Aminata Koné. Il y a là aussi la légende urbaine de la prime de rentrée scolaire qui sert à acheter l'écran plat dernier cri. C'est quelque chose qui circule, qu'on entend, mais qui ne correspond pas à la réalité.
Ben, je pense pas que ça corresponde à une réalité vraiment. Et même si le parent achetait un écran plat, au moins ça profite à l'enfant pour sa culture générale. Enfin, je sais pas.
Les enfants qui regardent sur l'écran plat, mais ça, c'est autre chose.
Non, mais soyons un peu sérieux. Je pense que la rentrée scolaire, les enfants ne sont pas otages des parents. C'est vraiment une dépense bien investie parce que les parents achètent ce qu'il faut. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut une démarche raisonnable par rapport à cette liste à rallonge et qui alourdit le coût de la scolarité. Nous pensons que si nous n'avions pas des listes à rallonge comme ça, peut-être que il aurait été intéressant d'avoir cette allocation de rentrée scolaire suivant le niveau d'études des enfants et non attribuer en fonction de l'âge des enfants. Donc la modulation aurait permis certainement de prendre en compte les niveaux les plus élevés et qui sont coûteuses. Et deuxièmement, pourrait bénéficier à des jeunes qui redoublent, puisqu'on accepte le redoublement en France. Et pour autant, le jeune après 18 ans qui se trouve au lycée n'a plus droit à cette allocation de rentrée scolaire.
Alors, il y a un message de Ségolène par mail sur le site franceinter.fr. Je vous le lis, je suis professeur des écoles en CM1. J'aimerais ne rien demander aux familles, mais ma mairie ne me donne que 28 euros par élève pour toute l'année, livre compris. Si j'achète un manuel par élève, mon budget est déjà amputé de moitié, je m'en sors pas.
Ben oui, et c'est surtout ça, cette inégalité territoriale dont on a parlé à plusieurs reprises. Je pense que quand on veut une réussite pour tous, il faut déjà commencer par gommer ces inégalités. La pauvreté des familles, les familles sont pauvres déjà, le coût de la scolarité arrive à un moment difficile, en particulier pour les familles. Cette année, le coût a quand même augmenté globalement de plus de 0,8%, un peu plus que l'inflation, mais bien plus que l'indexation des allocations de rentrée scolaire. Donc voilà, c'est un moment très important pour les familles. Moi, je pense que les collectivités territoriales et l'État et les académies devraient pouvoir se mettre quand même d'accord pour dire voilà, la liste ne doit pas dépasser tel nombre, parce que je trouve que c'est complètement aberrant de voir des listes. Cette année, on a eu la chance d'avoir les DOM avec nous, parce que tous les ans, ils participaient pas aux enquêtes. Eh bien, on était assez effarés quand même de voir.
Pourquoi?
Le nombre de fournitures demandées, ça frôle les 50.
Sonia.
Vous dites les rectorats, les municipalités devraient se mettre d'accord, etc. Mais pourquoi on n'y arrive pas, alors, à votre avis? Je vous pose la question à vous deux.
Pourquoi on n'y arrive pas? Je pense que c'est parce que personne ne se met à la place des parents. Il faut travailler avec les parents. Quand même les achats groupés se font quelque part à certains endroits, sauf que ces achats groupés, on s'aperçoit que quelquefois il y a les mêmes articles sont proposés. Il n'y a pas de possibilités pour les parents de choisir tel ou tel autre article. Voilà, c'est complètement aberrant. Un travail en collaboration permettrait certainement de réduire du matériel acheté pour rien et ça fera du bien à l'environnement.
Je pense qu'il faut pas non plus dire que tous les professeurs font des abus. Il y en a qui sont très raisonnables. Malheureusement, je me dis, c'est que pour moi, la situation est meilleure qu'elle était il y a quelques années. Il y a quand même moins de professeurs qui demandent des choses aberrantes. Maintenant, comme vous le disiez, il y a une liste qui est apparue au ministère qui était censée encadrer. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut surtout qu'il y ait les parents, les professeurs et le ministère qui travaillent ensemble, parce qu'il ne faut pas l'imposer aux professeurs non plus. Il faut travailler avec les professeurs. C'est très important, parce que si on impose quelque chose, il faut aussi comprendre leurs prérogatives et pourquoi ils ont besoin de ces cahiers. Parce que bon, la plupart, on dit qu'il y a du gaspillage. C'est vrai, on est dans une optique de développement durable. Donc là, c'est important d'en tenir compte. Mais la plupart des fournitures sont quand même utilisées. Enfin, on ne peut pas dire n'importe quoi.
Alors moi, je voudrais que vous répondiez à une question que je me pose depuis quelques années sur les calculs calculatrice électronique. Quand on regarde un rayon de calculatrice électronique, il y a des dizaines de modèles. Oui. Sauf que les professeurs demandent pratiquement tous le même modèle, de la même marque. Alors, il y a quoi? Il y a une conspiration de ce fabricant de calculatrices électroniques ou c'est parce que finalement, ils cèdent à la facilité?
Ou à la reproduction des gestes, des choses vécues soi-même. Je sais pas, en tout cas, moi, mes enfants...
C'est une petite calculatrice verte, c'est une grande marque japonaise, on la voit partout. Hein.
Absolument, mes enfants ont eu droit à ça aussi. Tous les ans, c'était la même demande. Je dis, très bien, donc on recycle. C'est tout.
Et je dirais qu'au lycée, ils leur font acheter tous la même calculatrice aussi. C'est beaucoup plus symbolique parce que maintenant, comme ils programment aussi sur les calculatrices, si on leur change de modèle d'une année à l'autre, c'est terminé. Enfin, c'était la même chose quand j'étais étudiant. Et je pense que...
ça se passe aussi comme ça, Lila Lebas, dans les amphis. On vous impose un certain nombre de...
Dans les amphis, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas de liste scolaire de rentrée.
Chacun fait comme il veut. Hein.
Chacun fait comme il veut pour prendre des notes et pour prendre ses cours et la méthode de réviser. C'est une grande autonomie à l'université. Donc, il n'y a pas de liste. Mais d'ailleurs, ça manque un peu parfois de pédagogie à l'université, justement. C'est un des vrais problèmes. C'est que quand on fait la transition du lycée à l'université, on arrive dans un amphithéâtre et on est livré à nous-mêmes pour pouvoir prendre des notes, suivre un cours à 200 dans un amphi et le restituer après et pouvoir le réviser dans de bonnes conditions. Et donc ça, c'est évidemment un enjeu, la pédagogie en première année et dans les premières années à l'université pour pouvoir faire réussir les étudiants. Mais ce n'est pas un sujet de calculatrice.
Non, et les étudiants qui arrivent en première année, ils sont un peu largués quand même, il faut bien le dire. Hein. C'est un autre univers, c'est une autre planète.
Ouais, c'est un autre univers et surtout c'est de pire en pire d'année en année puisque on a encore cette année 40 000 bacheliers supplémentaires qui arrivent à l'université avec des moyens qui sont insuffisants, voire même qui baissent alors qu'on a des bacheliers en plus, des places qui restent pareilles ou qui diminuent dans les universités et donc les étudiants s'entassent dans les amphithéâtres, dans les cours en petits groupes et donc c'est des conditions d'études de plus en plus compliquées et donc évidemment c'est de plus en plus difficile de réussir à l'université.
Alors, j'ai une question d'Agathe sur le site franceinter.fr. Depuis quelques années, l'État se désengage et les communes voient leur budget global baisser. Est-ce que l'éducation va en pâtir?
Voilà, c'est ce qu'on peut voir avec les contrats aidés, par exemple. On voit qu'on a voulu arrêter les contrats aidés, donc c'est pas à nous, parents d'élèves, de discuter le bien fondé de la mesure, puisqu'on ne peut pas, enfin c'est pas nous discuter de l'efficacité de ces mesures, mais en tout cas c'est des emplois qui étaient nécessaires, que ce soit pour les AVS qui s'occupent des enfants en situation de handicap ou les assistants de vie scolaire qui sont là pour aider la sécurité, le service dans les cantines. Donc là on a vraiment besoin de l'État, on a besoin que l'État soutienne l'école publique et les universités. Enfin, on est parents d'élèves et parents d'étudiants, il est très important que l'État suive son rôle et il faut pouvoir assurer le service public d'éducation.
Aminata Koné, c'est un vrai risque quand même, hein, ce désengagement de l'État pour la question de l'éducation.
Eh bien oui, c'est un vrai risque. On voit déjà la question des inégalités quand on regarde l'accès à la cantine, la question des transports, la question des dotations pour du matériel pédagogique ou pas. Donc déjà, il y a une inégalité qui s'installe de manière assez pernicieuse et il faut vraiment que l'État reprenne ses responsabilités parce que je pense que l'éducation nationale, c'est un service public aux enfants, à la réussite scolaire de tous. Et pour les jeunes qui sont à l'université, c'est vrai que la question des revenus, vous l'avez justement dit, nous on pense qu'il faut une allocation d'autonomie pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est pas un luxe que de permettre à un jeune pour lequel on a assumé sa formation jusqu'au bac, après le bac est laissé à lui-même, il réussit ou il ne réussit pas, des années perdues pour le compte de tous, hein, pour le jeune d'abord et ensuite pour la nation entière.
Alors tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas taper systématiquement sur les enseignants. Il y a un message de Sophie sur franceinter.fr qui nous dit « Dans notre école, il y a la possibilité de souscrire au cartable vert pour 20 euros l'année. Notre enfant a toutes les fournitures pour son année scolaire et tout est remplacé durant l'année. De plus, l'école achète des fournitures écologiques. Donc ça aussi, c'est plutôt responsable. C'est une belle initiative. Allez, on retourne au standard du téléphone sonne. Retrouvez Xavier. Xavier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Alors, mon message s'adresse à l'attention, excusez-moi, j'ai pas noté son prénom, mais qui représente une affidée.
Lila Lebas. Et c'est l'UNEF, c'est pas l'UNEF idée. Et on va redéclencher une guerre de religion du monde estudiantin. Alors c'est l'UNEF,
Hein. C'est l'UNEF, oui, voilà. Excusez-moi. En deux mots, je me présente très rapidement. Donc j'ai 47 ans, papa de trois filles, dont deux en études supérieures, et j'ai été pendant 9 ans président d'un IUT. Donc je connais un petit peu les études supérieures, président à titre bénévole, à l'époque j'étais chef d'entreprise. Et donc, je voudrais juste réagir une seconde, mademoiselle. Je me viens de vous appeler mademoiselle, il ne faut plus dire, on dit madame. Mais en fait, vous dites aujourd'hui que lorsque les étudiants travaillent, c'est une grosse source d'échecs. Je voudrais qu'on fasse simplement un distinguo entre ceux qui sont obligés de travailler avec des horaires qui ne correspondent pas à leurs études, mais aussi, il ne faut pas non plus diaboliser le fait qu'un étudiant puisse travailler pendant ses études. Ce discours-là, si vous voulez, c'est pas un discours politique, mais il faut aussi, à un moment donné, ne pas diaboliser l'entreprise. Le fait qu'un étudiant ait travaillé, je pense que c'est un plus. Il va arriver dans le monde du travail, il aura une longueur d'avance sur ceux qui n'auront pas travaillé, parce qu'il aura appris à s'adapter, à comprendre ce qu'on lui demande de faire, à remplir des missions. Donc il ne faut pas le voir simplement comme une conduite à l'échec. Alors, vous allez me dire qu'il y a des stages pour ça, je vous rejoindrai tout à fait. C'est deux choses différentes. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il existe aussi, il ne faut pas l'oublier, il existe des prêts pour les études dont on parle peu, ça se fait beaucoup. On a la chance d'être dans un système universitaire où les études supérieures ne coûtent quand même pas si cher. Il faut quand même arrêter de... Les études en université, j'ai une fille qui était la chance d'être prise à Dauphine. Quand on voit ce que c'est, ce n'est pas le coût. Alors je reconnais qu'il y a des familles pour qui ça représente un coût, je suis cadre supérieur. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a cette solution-là. Et je trouve, pour finir là-dessus, que si vous voulez, l'entreprise, on ne fait pas assez d'alternance en France. Alors si en plus on la diabolise avant qu'il rentre dans le monde du travail, voilà, c'est simplement là-dessus que je voulais réagir.
Alors ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes. Lila Lebas, présidente de l'UNEF, sur le côté, faut pas diaboliser l'entreprise. C'est vrai que bon, quand on fait un stage, quand on travaille le soir dans un fast-food, on peut pas dire que ça ouvre les horizons sur la vie dans l'entreprise.
Moi, je diabolise pas l'entreprise, c'est pas ça le problème. Par contre, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les enquêtes qui le montrent, que le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. Quand on passe 15 heures, que ce soit de jour ou de nuit, à travailler, à vendre des frites dans un fast-food ou autre, ça ne fait pas réussir à l'université. Je ne vois pas la vertu pédagogique d'aller travailler dans un fast-food pour pouvoir réussir une licence d'histoire. Ça n'existe pas. Et donc oui, le salariat étudiant, ça fait échouer, puisque être étudiant, je voudrais juste le dire, mais c'est un job à plein temps. Quand on étudie, c'est aller en cours, c'est réviser, c'est plein de choses, mais c'est en aucun cas ce salarié à côté. Donc c'est pour ça que je rejoins la revendication qui a été dite juste avant. Nous, on revendique évidemment une allocation d'autonomie pour tous les jeunes, pour qu'ils puissent faire leurs études dans de bonnes conditions. Et l'auditeur l'a dit, mais oui, pour connaître le monde de l'entreprise, il y a des stages qui sont cadrés par les établissements, par l'université, qui correspondent à des intérêts pédagogiques, à des objectifs pédagogiques, mais un job à côté, ce n'est jamais en aucun cas intéressant pour un étudiant, et nous on pense qu'il faut se livrer complètement à ses études.
Samuel Sumit de la PEP.
Oui, nous ce qu'on avait demandé au ministère lors des rencontres qu'on a eues dernièrement, c'est qu'il y ait un vrai statut de l'étudiant salarié pour qu'il soit aidé, qu'il ait la possibilité de rattraper les modules qu'il manque du fait de son travail. C'est ce qui est fait dans les universités américaines. Donc il est clair que c'est difficile pour les élèves, les étudiants salariés. Malheureusement, c'est 50% quasiment des étudiants. Donc, à défaut d'avoir une aide suffisamment importante, il faut au moins pouvoir leur donner un statut qui leur permette de réussir.
Alors, Xavier tout à l'heure parlait des crédits étudiants. Il y a un message de Gérard sur le site franceinter.fr qui dit « Les banques ne peuvent-elles pas accorder des prêts à 0% aux étudiants comme en Suède ?» Lila Lebas.
Moi, je ne pense pas que la solution, ce soit que les étudiants empruntent pour pouvoir payer leurs études, qu'ils remboursent quand ils auront un travail. On voit bien les systèmes, par exemple, aux États-Unis, quand les étudiants font des prêts exorbitants pour pouvoir payer leurs études, ils les remboursent pendant X années, une fois qu'ils ont trouvé un travail. Et encore une fois, ça crée des inégalités sociales entre ceux qui vont faire un prêt pour financer leurs études, ceux qui n'en auront pas besoin. Et nous, on ne pense pas qu'on doit accroître les inégalités sociales à l'entrée de l'université. Au contraire, on doit remettre en marche l'ascenseur social. Et pour ça, il faut aider tous les jeunes pour qu'ils puissent faire des études dans des bonnes conditions. Mais en aucun cas, un prêt étudiant, c'est la solution. S'endetter pour faire des études, c'est jamais bon.
Alors, Aminata Koné, je voudrais, parce qu'on va bientôt terminer cette émission, parler de quelque chose que j'ai lu ces jours derniers de parents qui s'endettaient au moment de la rentrée scolaire. Est-ce que c'est là encore une légende urbaine ou est-ce que c'est une réalité ?
C'est pas une légende urbaine, je l'ai fait moi-même. Donc, c'est évident. quand vous êtes et souvent c'est des classes moyennes qui tombent dans ce panneau-là, parce que vous n'avez pas aucune aide, vous n'avez droit à rien. Des effets de seuil qui font que le minimum, vous passez à côté. Quand vous avez deux adolescents qui font des études supérieures, eh bien, je me suis endettée. Voilà. Et c'est comme ça, donc c'est pas une légende. Et je ne suis pas un cas particulier. Ça veut dire qu'il y a bien des parents qui sont obligés de passer par ce biais-là pour permettre à leurs enfants d'étudier.
Samuel Simoui, c'est un problème que vous rencontrez, vous, ça?
Oui, c'est un problème qu'on rencontre, que c'est souvent au moment de l'entrée au lycée ou au moment de l'entrée dans le supérieur. Ça peut être l'étudiant qui s'endette ou la famille pour permettre à l'élève de continuer sa scolarité.
Donc, Sonia Bourgne, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire hein, pour cette fameuse égalité devant l'éducation.
Oui, et puis on voit de grosses différences selon les régions, on l'a dit tout à l'heure. Hein, mais par exemple, l'UNEF a fait une enquête là, sur les logements étudiants. On a vu que quand on voit que le coût moyen d'un logement à Paris est de 824 euros et à Poitiers, la ville la moins chère, 324 euros, vous imaginez la différence.
Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci mesdames, messieurs d'avoir participé à cette émission. Demain soir, eh bien nous nous intéresserons à un autre sujet, une autre rentrée, la rentrée sociale sous haute tension pour le gouvernement sur fond de loi travail.